C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois les redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 FM ou sur radiobartas.net. Nous sommes le lundi 19 juin, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Thomas Pouget, qui est directeur artistique de la compagnie La Joie Errante. Et le week-end du 7 juillet prochain, ce sera la 4e édition du festival Chant Libre, organisé en Nord-Lozère. On en parlera avec lui dans un instant. On partira ensuite à Espagnac à la rencontre d'Alexis, qui tient l'épicerie L'Écureuil. Je l'ai rencontré dans le cadre des Figures du Parc, puisqu'il a le label Esprit Parc National. On l'écoutera en deuxième partie. Et enfin, une fois n'est pas coutume, en dernière partie d'émission, Clara de 48 FM est allée à Saint-Enimi pour la conférence de Muriel Abadi pour la région Occitanie en charge du tourisme durable, entre autres, et qui a présenté il y a quelques jours la politique des grands sites en Occitanie. Et forcément, la Lozère est dans le coup. On l'écoutera en dernière partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Ce week-end, c'était la marche des fiertés à Mende. Et bien qu'il y avait moins de monde que l'année dernière, l'esprit était absolument génial. On y a fait un plateau avec 48 FM, on y a fait des belles rencontres et parlé de sujets ô combien importants. Bref, un super bien joli moment. Un détail près qui a son importance. Alors que la marche était partie et que j'allais à la rencontre des assos qui restaient sur leur stand... Et là, j'allais à leur rencontre dans le but de justement de préparer les passages horaires pour l'émission. Une bande de jeunes, je dirais d'une quinzaine d'années, se sont mis à insulter allègrement la communauté LGBTQIA+, par des termes que je préfère éviter de dire sur cette antenne. Alors qu'on était prêt à y aller avec Rizzo Boring, allez les voir. Rizzo Boring, elle est artiste et activiste queer présente sur notre plateau d'ailleurs. Des bénévoles de la Marche des Fiertés sont allés remballer en toute pédagogie et très calmement ces petits jeunes qui ne se rendent certainement pas compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font et du mal que ça fait. Bref, l'histoire s'est bien finie. Mais je tenais à vous en parler quand même et dire que j'ai un profond respect pour toutes les personnes qui subissent ce genre de comportement chaque jour. Ça doit être très sincèrement fatigant et pourtant... Ils, elles, sont encore debout, fiers, levant le poing face à cette intolérance. Ouais, c'est ça, je n'ai que de mots, profond respect. Et comme le chemin est encore long, bon sang.
Mon petit mec et moi, on se fait des câlins, on se fait des mamous. Et les autres, on s'en fout. Mon petit mec et moi, on se tient par la main. Et les gens tout autour ne regardent que nous. Mon petit mec et moi, on s'embrasse sur la bouche quand je lui change sa couche.
Ton petit mec et moi, on n'a rien besoin de se dire. Et quand on se comprend, c'est souvent par hasard. Ton petit mec et moi, on s'observe grandir. Tous les deux, on s'apprend beaucoup par le regard. Ton petit mec et moi, on s'embrasse pas sur la bouche quand je lui change sa couche.
Depuis le divorce pour la justice, je vis tout seul avec mon fils. Mon ex étant hôtesse de l'air, ça lui laisse peu de temps pour être mère. Elle sait que je suis devenu homo.
Qu'on lui fera pas d'enfant dans le dos.
Elle t'apprécie, te trouve super.
Elle dit qu'on fait une super paire de pères. Pour les voisins, c'est différent. De BD, ça fait pas de parents.
Pour la morale, n'en parlons pas. Même si Jésus avait deux papas.
Pour la rumeur, ce serait trop dur. On serait deux pédophiles, c'est sûr.
Alors on joue
les hétéros. On invite des copines au resto. Mon petit mec et toi,
ton petit mec et toi,
on est bien tous les trois, on est bien comme ça.
Nous sommes par téléphone avec Thomas Pouget, bonjour.
Bonjour.
Tu es le directeur artistique de la compagnie La Joie Errante et vous organisez du 7 au 9 juillet le festival Chant Libre. Toute une série d'événements dans le Nord Lozère entre Le Malzieu et Saint-Chidiapché. C'est la 4e édition, la première ayant eu lieu en 2020. Sacrée année pour créer un festival, dis donc. Et pourtant, ça a marché.
Ouais, mais ça a marché parce que je pense que d'une part, tout le secteur culturel était à l'arrêt. Parce que y a la pandémie qu'on connaît qui est passée par là, ouais. Et ça a marché parce que je pense qu'il y avait un besoin certain pour le public de se retrouver et que derrière ce qu'on a pu appeler les non-essentiels, etc., il y avait quand même une nécessité au moins pour le public de se retrouver et de vibrer au son des spectacles de musique, de théâtre et de danse. Donc je pense que ça a su fédérer un territoire en tout cas. Ouais.
Commençons par le début. C'est quoi le concept, la ligne artistique du Festival Chant Libre?
En fait, le concept, il est né d'un constat qui est que parfois, il y a une appréhension du public, et j'en croise encore tous les jours, qui pense que le théâtre, c'est vieux, que le théâtre, c'est pas fait pour eux, que les concerts, c'est, ce sont pas faits pour eux, etc. Et en fait, ce constat, il est assez terrifiant, parce que je me dis, en fait, on a tous et toutes les codes pour s'emparer de ces choses-là. Et on peut, à mon avis, vibrer, comme je disais, au centre des spectacles avec une vraie belle exigence, mais avec une vraie accessibilité aussi pour le public. Mmh. Donc, de fait, on a créé le festival en plein air et de manière à casser ces barrières qu'il peut y avoir de temps en temps en disant « j'ai peur de rentrer dans un théâtre, j'ai pas les codes, etc. » On fait tout en plein air et pour toutes les familles.
Mmh. On sent aussi que l'idée du festival, c'est de s'engager dans pas mal de combats, hein, tant en ce qui concerne l'environnement, mais aussi la parité et jusque la violence au travail, que j'ai pu lire. Comment ça se traduit concrètement sur le festival?
Concrètement, déjà toute l'équipe est sensibilisée sur ces questions-là. On en parle beaucoup avec l'équipe de La Joie Errante et aux bénévoles aussi, de manière, c'est une évidence que j'énonce, mais on condamne évidemment fermement tous ces comportements-là. Mais on commence à mettre en place des outils aussi pour faire remonter, si jamais on assiste à ce genre d'événement, de manière à ce que ça ne passe plus. Et on est en 2023 quand même, donc il est temps que ça remonte et puis que ça fasse effet. Quoi.
C'est sûr. La culture se doit-elle d'être engagée?
Oui. Enfin, je dirais que la culture est engagée. Après, nous, c'est toujours délicat de répondre à ces questions-là parce que je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot d'engagement. Moi, je suis engagé pour mon territoire. Je suis fervent défenseur, en tout cas, d'une culture qui se veut émouvoir et faire réfléchir aussi les gens. Mais j'essaye de ne pas opposer les deux. Et j'essaye aussi de dire au public, et puis je crois que ça marche pas trop mal parce que nos créations continuent de tourner pas mal sur le territoire et au niveau national, on essaye de se dire que des questions de société, ce qu'on appelle notamment le théâtre contemporain, ça parle aux gens, parce que ça parle d'eux en fait, ça parle d'humains. Donc oui, la culture, elle se doit d'être engagée, et puis je crois qu'on essaye de le faire du mieux possible.
Alors, vous mettez aussi un point d'honneur à faire connaître les compagnies installées en milieu rural. Est-ce que c'est plus dur ou c'est simplement différent de se produire quand on vient de milieux comme le nôtre?
Je pense qu'il y a une attention qui n'est pas tout à fait la même par rapport au public, en fait, à vrai dire. Je pense que, comme je disais, dans nos territoires, il y a évidemment plein de choses qui se passent et c'est heureux. Mais je pense qu'on est dans un, comme tu le disais, dans un engagement qui est celui de se dire qu'il faut militer pour faire venir le public au spectacle. Donc je pense que les compagnies qui sont implantées en ruralité, en campagne, on est au courant de cette chose-là. C'est pas toujours une évidence de faire venir le public. Je pense que pour certains, et encore il y a des exceptions bien sûr, mais pour certaines villes, je pense le plus évident c'est Paris, je pense qu'il y a déjà un public qui est acquis en fait pour aller au théâtre, qui n'a pas peur de mettre des fois 20 ou 30 ou 40 euros dans une place de théâtre. Nous, on n'a pas ces rapports-là avec le public. Je pense qu'il y a un rapport très fort déjà de fidélité. Il y a une attention particulière sur les tarifs à avoir, parce qu'on sait que c'est un frein, c'est certain. Mais c'est un public qu'il faut aller chercher, ça c'est certain. Ouais.
C'est ça, c'est pour ça, allons-y. C'était ma dernière question, mais allons-y pour maintenant. Vous voulez vous pratiquer des tarifs très abordables, c'est entre 6 et 12 euros, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et oui, parce que c'était la volonté aussi de se dire que... Et puis alors, en ce moment, je pense qu'on est en plein dedans. Je n'apprends rien, mais il y a une crise financière. Il y a évidemment des aléas qui font que c'est pas toujours facile de boucler les fins de mois. Donc, on a une attention particulière. La culture, parce que je considère que ça doit être un service public, c'est pas de moi, hein, c'est de Villard et de Vitesse avant lui, qui disait que ça devait être considéré, la culture, au même titre que le gaz, l'eau, l'électricité, comme un service public. Moi, je considère que chacun doit s'en emparer, que chacun a une culture, et que c'est beau, en fait, de se rassembler, et puis de rire ensemble, de s'émouvoir ensemble, d'être en colère ensemble. Et il y a de quoi. Donc... continuons à le faire, ouais, à des tarifs accessibles.
Alors, 3 jours le festival, c'est du 7 au 9 juillet, 3 lieux, voire 4 lieux, 4 spectacles par soir, et ça commence au Malzieu le 7, et c'est ouais. Vous, la compagnie La Joie Errante, qui ouvrez le bal avec ce monstre de la littérature française qui n'est autre que Le Petit Prince. À quoi le public doit s'attendre ?
Il doit s'attendre à se laisser embarquer par les mots de Saint-Exupéry. Et moi, j'aime beaucoup à dire que la lecture, c'est absolument pas le parent pauvre du théâtre.
C'est vrai.
Ça demande un exercice... différent évidemment de celui de jouer avec un texte appris par cœur, mais ça demande d'être en phase complète avec les mots de Saint-Exupéry. C'est rigolo parce que c'est un livre, moi je me souviens, on l'étudiait beaucoup à l'école, on continue à l'étudier, mais moins quand même globalement. Et je trouve que c'est un livre formidable qui nous apprend énormément de choses sur la vie, sur la perception qu'on peut en avoir. Et sur justement prendre des fois du recul sur beaucoup de choses. Donc on voulait ouvrir le bal, puisque La Joie Errante, systématiquement, sur les 4 éditions, a proposé un événement. Mm-hmm. Là, on est en mineur, puisque c'est une lecture et que c'est pas un gros spectacle comme on peut le préparer pour 2024. Mais on y tient, on continue, je pense, depuis maintenant 5 ans qu'on est installé sur Nord-Lozère, à fédérer le public. Donc on est aussi un peu attendu au tournant de temps en temps, en disant, alors qu'est-ce que vous faites cette année ? Et là, pour le coup, ce sera la lecture. Et puis, comme tu le disais, l'idée, c'est de commencer avec ça et puis de finir avec des concerts à la Tour d'Apché. Moi, je suis évidemment pas très objectif, mais très fier de cette programmation-là. Il y a tous les artistes que je recommande. Ce sont des gens qui sont sensibles, qui sont intéressants, qui ont une attention particulière à ce qu'on fait en milieu rural, qui parfois eux-mêmes ont questionné la chose en s'équipant... d'un camion comme on a pu le faire avec un piano dedans pour désacraliser ce que peut être la musique classique. Enfin voilà, il y a largement de quoi faire, je pense.
C'est sûr, hein, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est, tu l'as abordé tout à l'heure et tu viens de l'aborder d'ailleurs, c'est que ce festival, c'est pas que du théâtre, il y a du cirque, c'est très éclectique. Mélanger les arts, c'est une des caractéristiques du festival.
Ouais, complètement. Parce que je ne veux pas hiérarchiser les arts, ce serait à mon avis... une bêtise. Et puis je pense qu'on peut être touché par du théâtre, moins l'être par du clown, et en même temps, il y a tellement de choses différentes dans les concerts, par exemple, qu'on propose entre l'ombre qui fait du rap chanson française, et en même temps Laura Zucca qui fait concert du monde, et en même temps de la musique classique. Enfin, il y en a aussi pour tout le monde. L'idée, c'est que le public puisse se découvrir, lui, et découvrir des arts à travers des propositions artistiques. Mais je suis pas sûr que je souhaite que le public sorte en disant tout était génial. Enfin, le spectacle vivant est aussi là pour questionner, pour dire ça m'a touché, ça moins, etc. Mais heureusement que les spectacles ne seront pas là pour faire sans cesse l'unanimité. Il y a de tout, en tout cas.
Et elle doit commencer tôt, la culture, puisque cette année, le lycée Saint-Joseph va être à l'honneur avec une pièce de théâtre qui s'appelle Incendie, c'est ça ?
Oui, c'est toujours cette idée de cohérence qui, moi, me tient à cœur et puis de sens. La compagnie, elle intervient au lycée Saint-Joseph sur l'ensemble de l'année scolaire. Mmh. Et puis là, c'est vrai qu'il y a cette envie-là de monter Incendie qui est venue depuis un petit moment. Ce qui est drôle, pas tellement, mais cocasse, c'est que ça parle notamment de la guerre, etc. Que l'envie de monter cette pièce, elle est née... bien avant la guerre d'Ukraine, mais que ça a pris une autre tournure quand on a monté cette année, de se dire, voilà, c'est à 2 heures d'avion, en fait, et il se passe les mêmes choses que cette pièce peut raconter au Liban. Donc, je pense qu'il faut savoir entendre, écouter, et puis c'est toujours très agréable de voir des élèves qui se dépassent et puis qui vont jouer au milieu d'une programmation professionnelle. Enfin, c'est aussi continuer un partenariat qu'on a mis en place depuis un petit moment avec eux.
C'est génial, effectivement. Alors, tu parlais de désacraliser la scène, entre guillemets, pour le public, mais cette année aussi, pour la première fois, à Champ Libre, vous proposez une scène ouverte.
Ouais. Oui, ben, c'est ce que j'aime à répéter souvent, mais le festival, il est en partie monté sur des subventions publiques. Donc, pour moi, il y a une attention particulière au public. Et quoi de mieux que de leur offrir un passage de 5 à 7 minutes en disant que, je sais pas, hein, ça peut être un enfant qui écrit dans sa chambre et qui n'ose pas le lire en public, et ben lui donner la possibilité de le faire. Ça peut être un groupe de musique naissant qui a envie de se produire. Ça peut être quelqu'un qui danse et puis qui tout d'un coup a envie aussi de se produire. Enfin voilà, moi c'était surtout l'idée de laisser la porte ouverte au public et de s'emparer aussi de ce festival-là en disant que oui, il y a des professionnels qui y jouent, oui, il y a des lycéens avec Incendie, comme tu le disais, mais tout le monde peut s'emparer de ce festival-là et je reste persuadé, c'est aussi notre façon de créer, qu'on a tous quelque chose à raconter et qu'on a tous une histoire. Donc si, je sais pas, il y a des choses qui sont plus timides, etc., c'est l'occasion pour le coup de le montrer et d'essayer. Et puis après, c'est pas un concept très nouveau, très novateur, dans la mesure où, par exemple, il y a plein de stand-uppers qui le font, et c'est une manière d'essayer, d'échouer parfois, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas finies, mais en tout cas, ça donne la possibilité d'essayer et de tester face à un public. Et on n'est pas là pour produire une œuvre finie, aboutie. C'est l'idée vraiment aussi d'essayer, de se produire, de tenter, et puis voilà, de se lancer, d'expérimenter.
Et d'essayer de dépasser le stress aussi, parce que c'est pas toujours évident. Au niveau, il y a beaucoup de chansons françaises, sauf l'Orazuka, qui sera Musique du Monde dès le dimanche. La chanson française, ça fait du bien. Je pense à Céleste et Kid Maseo, ou à L'Ombre, ou Nati encore, qui se produiront.
Ben, moi, ça fait du bien. Puis encore une fois, on a réfléchi sur la programmation en termes de cohérence. On est content et puis fier, tu vois, de pouvoir programmer L'Ombre et Nati, parce que pour moi, c'est aussi ça la soirée. De pouvoir allier, tu vois, quelqu'un comme L'Ombre qui fait des zéniths, que ce soit avec en première partie de Ben Mazuwe ou de Big Flo et Oli, et de se dire, ben, en première partie, il y a quand même Nati qui est Barabande, qui est de Saint-Chély-d'Apcher. Tu vois, je trouve que ce partenariat, il est assez incroyable. Kid Maseo et Céleste, ce sont deux artistes que j'ai rencontrés quand moi je jouais en Haute-Loire, qui ont une sacrée plume, et en plus de ça, Mehdi Kid Maseo, qui a un talent fou au piano, quoi. Ouais. Et avec quatre notes, il arrive à faire des choses incroyables. Quatre accords, c'est pareil. Enfin, ouais, ça me tient à cœur d'avoir cette accessibilité aussi au public, comme on le disait, de démystifier en disant on va passer un bon moment et ça va être simple et ça va être très agréable.
Tous les concerts auront lieu à la Tour d'Apcher, c'est bien ça, hein?
Ouais, c'est ça.
Donc ça, ce sera tous les soirs. Et bien sûr...
je dis une petite bêtise, il y a quand même le concert qui a lieu au Quartz, c'est le samedi soir.
Ouais, tout à fait. Je l'avais noté en plus. Il y aura aussi, donc on l'a dit, trois lieux. Il y aura aussi une belle journée à Saint-Alban-sur-Lumagnol le dimanche, et ça commencera avec les Noctambules qui est de la danse.
Oui, c'est ça. En fait, les Noctambules, il y a une partie de cette équipe-là qui est en résidence avec le ciné-théâtre depuis un petit moment. Et puis, pareil, ça s'est fait avec des rencontres, avec une envie de travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment. Et il se trouve que certains membres avaient notamment un projet autour de ce qu'on appelle la résilience, tomber, chuter, et puis se relever, et toujours plus haut, et puis rechuter, et puis se relever, etc. Donc, naturellement, on a dit oui, bien sûr. Enfin, il y a aussi une proximité avec le territoire parce que vous connaissez très bien les habitants, parce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir. Donc, continuons ce partenariat. Mmh. Ça participe aussi à ma façon de considérer ce qu'on appelle la décentralisation culturelle. C'est-à-dire que pour que les artistes s'implantent sur un territoire, il faut que ça soit fait de manière durable. Mais il ne faut pas simplement venir une fois, pour moi, et puis repartir. Ou alors ça s'appelle une tournée, mais ça ne s'appelle pas tout à fait une implantation territoriale avec une décentralisation accrue.
Et le dimanche, il y aura aussi la compagnie Et la famille vient en temps mangeant, ça c'est du théâtre.
Ouais, c'est
théâtre cirque en fait.
Un très beau spectacle qui parle notamment de l'éducation et du rapport dans une famille à l'autorité et je crois surtout à l'éducation, de savoir qui éduque qui dans une famille. Est-ce que ce sont les enfants qui apprennent aux parents ou les parents qui apprennent aux enfants? Mais c'est un seul en scène qui est fait par une actrice et ouais, qui est vraiment très très forte.
Et le cirque Pépin, c'est peut-être...
Oui, bah, c'est rigolo parce que on fait des échanges de temps en temps avec d'autres festivals et puis on le sait, c'est une compagnie qui axe leur travail à la fois sur la poésie, à la fois sur le cirque et à la fois sur le théâtre. Donc c'est accessible vraiment aux plus jeunes parce que je crois que c'est de mémoire accessible à partir de 3 ans. Mmh. Et puis voilà, ça participe aussi à ce qu'on disait sur la programmation, mais d'essayer de combiner des spectacles qui soient plus jeunes publics, d'autres qui soient plus... je dirais pas vieux public, mais en tout cas qu'il soit pour un public tout public, voilà, ou un public plus confirmé. Mais l'idée, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, ouais, le cirque Pépin rentre aussi dans cette boucle-là de se dire poésie, théâtre, acrobatie, et il y en a pour tout le monde.
Alors, tu l'as dit, hein, le festival est financé par de l'argent public. Justement,
ouais.
Est-ce que, alors, vous êtes peut-être privilégié, je ne sais pas, mais en tout cas, quelle est la place de la culture et ce genre d'événement aujourd'hui en Lozère, à ton avis?
Je pense que, enfin, privilégié, je sais pas ce que ça veut. Enfin, moi, je fais un métier que j'aime et j'en vis. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me déplacer. Donc, je suis privilégié si, au regard du monde, etc. Tout va bien dans ma vie et tout va bien pour la compagnie. Ceci dit, une fois que cette chose-là est dite, on est quand même inquiet pour la suite parce qu'on voit ce dont je parlais, la crise financière arriver. Il y a déjà des coupes budgétaires qui sont opérées auprès de diverses institutions et c'est pas un secret, hein. Donc on est inquiet en Lozère, je pense que dans la mesure où on a une implantation territoriale qui est assez forte, assez présente, pour l'instant ça se passe pas trop mal, même si de manière pratique on le voit sur d'autres territoires, il y a des structures qui nous appellent dans un premier temps en disant on veut prendre 4 dates, puis qui nous rappellent en disant en fait on n'a pas les budgets, on en prendra 2, et qui nous rappellent en disant en fait on n'a pas les budgets, et on nous a supprimé encore, donc on en fera une. Cette chose-là, on la vit, et pour discuter avec plein d'autres compagnies, c'est partout pareil. Je pense que on y échappera peu ou pas. Je pense que nous, on est plutôt encore à l'abri, on tourne bien, on est quand même à Paris l'année prochaine, tout le mois de novembre, il y a quand même des choses qui se passent, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un boulot, je crois, colossal déjà d'organisation d'un festival, c'est un boulot colossal de se dire qu'il faut continuer à assurer les tournées, qu'il faut préparer les prochaines créations. Donc on tape souvent, à mon avis, à tort sur ce qu'on appelle les intermittents du spectacle qui doivent faire 507 heures par an. C'est 507 heures déclarées, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'heures de préparation, de travail, de doute, de remise en question, d'échecs, d'avancées, etc. Donc je pense que la culture, pour répondre précisément à ta question, en Lozère, elle se porte pas trop mal, et encore qu'il y a des personnes qui te diront tout l'inverse.
C'est sûr.
Mais il faut continuer à travailler, je crois, et à rester optimiste en disant que les choses sont possibles sans se voiler la face, et je crois en essayant d'anticiper ce qui peut potentiellement arriver d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Ouais.
C'est ça, rester vigilant et inciter le public encore et encore à aller voir des spectacles et des festivals.
Ben, on le fait pour... Enfin, je veux dire... Je lisais un article ce matin, c'est rigolo, on parle souvent des artistes, mais en fait, ceux qui font le spectacle vivant, tous les arts confondus, il y a des artistes, il y a des techniciens, il y a des régisseurs, il y a des chargés de diffusion et production, il y a des éclairagistes et il y a le public. Mais je veux dire, si on ne fait pas ça pour le public, je ne sais pas pour qui on le fait, et on ne le fait pas pour notre petit ego, enfin je n'y crois pas, ou en tout cas c'est pas notre façon de faire du tout, c'est impossible. Donc bien sûr qu'il faut que le public... soit là, et puis on compte sur lui. Ouais.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques et réservées, pourquoi pas sur le festival Chant Libre?
Alors, il y a tout sur le site internet de la compagnie, sur lajoieerrante.com. Et après, s'il y a la moindre question, mais normalement, quand même, on a pas mal balisé la chose, il y a un mail, c'est champslibres48@gmail.com. Alors là, vous nous écrivez, on vous répond au moins dans la journée si c'est dans 48 heures.
Je mets évidemment tous les liens sur notre site dans un instant. Ça se passe du 7 au 9 juillet prochain en Nord-Lozère, le festival Champ Libre organisé par la compagnie La Joie Errante. Merci beaucoup Thomas.
Merci à toi Ben et à bientôt.
Tu es le directeur artistique de La Joie Errante. Je vous souhaite un excellent festival et à très vite. Bonjour Alexis.
Bonjour.
On est à l'épicerie L'Écureuil à Espagnac, dans le cadre des Figures du Parc. Est-ce que tu peux nous dire comment et quand elle a commencé cette aventure?
Alors nous on a commencé en 2021, février, et une première année avec la mise en place de l'exploitation agricole et un petit démarrage sur la boutique quoi. Et on avait trois producteurs au départ qui étaient vraiment d'Espagnac. On avait l'apiculteur, une transformatrice sur le chocolat et un ami qui fait des confitures sur le Mont-Lozère. Voilà, donc à 4 on a commencé l'aventure et puis petit à petit de bouche en oreille ça a fait son tour et maintenant on est plus de 15. dans la boutique.
15 producteurs qui vont à peu près d'où à où ?
Alors on monte jusqu'à Entrenas, on part jusqu'à presque Langogne, et puis on descend dans les vallées Cévennes. Et puis maintenant on a aussi deux vignerons qui sont Frontière Gare et Terrasse du Larzac.
Un vin plutôt engagé, c'est ça ?
C'est ça.
Est-ce que ça a été facile de s'installer ?
Non, c'est jamais facile. On fait son nid petit à petit. Hein. Et puis, il y a les aléas, il y a le climat, il y a plein de choses. Le Covid en plus qui avait suivi. On en a pâti, mais bon, on est toujours là.
Vous avez, on va parler d'Esprit Parc après. Est-ce que vous avez été aidé par la communauté de communes ou autre ? Est-ce que vous avez eu des facilités entre guillemets pour vous installer ?
On a eu un peu de réseau. On a eu le local, on l'a trouvé plus ou moins comme ça. Après, ça reste toujours du privé. On n'a jamais eu la possibilité de s'installer sur du domaine public, quoi.
Esprit Parc. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment vous avez obtenu le label ?
Alors, Esprit Parc, c'est une marque nationale déjà, sur la France et les territoires d'outre-mer, qui concerne tous les parcs nationaux. Donc c'est exclusif à ces territoires-là. Et c'est une marque donc commerciale en soi, mais qui est sur un cahier des charges un peu spécifique, qui va être grosso modo entre de l'agriculture biologique et... du Nature et Progrès, d'Emeter, voilà, sur les questions de préservation des espèces, préservation des sols, maintien de la faune, de la flore, tout ça. Donc c'est des choses très intéressantes pour revaloriser un petit peu le patrimoine aussi bâti et non bâti. Et puis après, en dehors de ces critères très terre-à-terre, il y a le côté aussi moral de donner une certification supplémentaire à des produits. Nous, on a quand même le label bio dessus, parce que c'est celui le plus connu quand même nationalement. Mais c'est vrai que Esprit Parc commence à avancer dans ce sens aussi, quoi.
Ça offre une visibilité, c'est ça, concrètement ?
Il y a la communication faite par le parc, qui ont un partenariat aussi avec les offices de tourisme. Donc on a une visibilité par Internet et puis les différents offices de tourisme et le parc national, ça c'est clair. Et après, il y a quelques personnes qui connaissent effectivement cette marque et qui savent un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière.
15 producteurs pour l'instant, est-ce que l'objectif pour 2023, fin 2023, 2024, c'est d'augmenter encore ? Parce que pour les auditeurs et auditrices, il faut se faire l'idée du lieu qui est quand même assez petit, assez cosy. C'est quoi les objectifs pour les mois, voire les années à venir ?
Ben là, c'est sûr que les 30 mètres carrés sont déjà bien remplis. Donc on aurait encore un petit peu de place. On a quelques producteurs qui souhaiteraient encore rentrer, mais c'est vrai qu'on... Ça dépend des gammes en fait. Il y a des producteurs qui ont qu'un, deux, trois produits. Il y en a qui en ont des dizaines. Donc après, on agence toujours comme il faut. Et puis on voit aussi ce qui marche moins. Et l'idée étant que les producteurs choisissent eux-mêmes qu'est-ce qui est en boutique. On n'est pas un commerce alimentaire traditionnel, quoi. On est sur vraiment du dépôt-vente avec un système au cas par cas pour satisfaire tous les besoins et les envies de chacun. Ouais.
Au niveau de la politique de prix, évidemment, avec les petites épiceries comme ça, on a toujours l'idée de prix qui sont démesurés, parfois trop chers, etc. Comment vous fonctionnez ici par rapport à l'épicerie ?
Nous, on a appliqué une politique tarifaire qui favorise justement en fait l'achat quotidien, l'achat hebdomadaire, sachant que les producteurs, le but c'est qu'ils soient rémunérés le plus possible, l'idée n'étant pas du tout de faire du bénéfice sur leur dos. Donc ça c'est une volonté que j'ai depuis le début et qu'on poursuit et qui étonne plus d'un producteur parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de cette mentalité-là. Mais la boutique à la base, nous on était dans la volonté, même par rapport à nos produits à nous, d'être accessible à tout le monde, à tous les moyens et de proposer autant de choses que possible en ce sens, quoi.
Est-ce que le public adhère de plus en plus à ce genre de démarche ? Est-ce que tu as senti, toi, une évolution en 2, 3, oula, ça fait même quasi 4 ans d'installation, je vais y arriver.
Ouais.
Est-ce que tu as senti une évolution, une adhésion du public qui est de plus en plus intéressante ?
Mais ce qui est super intéressant, c'est que sur Hispaniac, on a à la fois les locaux, Et on a quand même une grosse saison touristique qui s'étend des fois sur plus que juste l'été, puisqu'on a pas mal de randonneurs aussi, etc. Et c'est vrai que de manière générale, les gens sont déjà tous sensibilisés à l'agriculture biologique ou en tout cas des méthodes un peu moins conventionnelles et pesticidées. Donc ça, c'est clair que c'est super d'aller en ce sens et de voir les gens prendre le temps aussi de discuter de ces choses-là. Et oui, il y a eu, avec le Covid, il y a eu plein de choses qui se sont passées autour aussi de l'alimentaire, de l'alimentation et du bien-être en fait des gens. Et c'est clair qu'il y a eu une prise de conscience énorme et qu'on voit de plus en plus de monde se tourner vers ce genre de moyens de consommation. Ouais.
Et ça dénote aussi avec certains commerces qui n'ouvrent que pour la saison touristique, c'est-à-dire que vous ouvrez à l'année.
Oui, on est ouvert à l'année, on est ouvert 3 jours semaine, 2h le matin, 2h l'après-midi, plus le jour de marché qui est annuel à Hispaniac le samedi matin. Et ça, c'est une volonté parce qu'on n'est pas là effectivement pour profiter juste de la saison et de mettre justement des prix un peu trop forts. Nous, ça nous permet aussi d'avoir sur l'année une clientèle et de fidéliser les gens. Et c'est super apprécié parce que même des gens qui ne sont pas à 100% sur Hispaniac mais qui ont des maisons secondaires, bah, tous les ans ils retrouvent la petite boutique en place, même en février, même en novembre, quand ils ont envie de prendre leurs vacances pour une semaine. Quoi.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
De continuer. De continuer. Après c'est en bonne voie. On a les travers de l'agricole là actuel avec le climat quoi, mais on fait tout pour maintenir la boutique malgré tout, de tenir ses jours d'ouverture fixes et à horaire fixe, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on a toujours une petite panne de tracteur ou un arrosage qui est défectueux, mais on va en ce sens là, ouais.
Bah, bonne continuation à vous en tout cas.
Merci.
L'écureuil, c'est sur la petite place d'Hispaniac, c'est tout mignon. Je vous conseille, auditeurs, auditrices, à bientôt avec vous.
À bientôt.
Et oui, allez dans les épiceries qui favorisent le local et le bio. Merci beaucoup à Alexis. Allez, tout autre sujet, Clara de 48FM est allée à Saint-Enimi pour la conférence de presse de Muriel Abadi. Pour la région Occitanie, elle est en charge du tourisme durable, entre autres. Et elle a présenté il y a quelques jours la politique des grands sites en Occitanie et forcément la Lozère est dans le coup. On écoute Clara, merci beaucoup à elle.
Alors, Muriel Abadi, vice-présidente de la région Occitanie en charge du tourisme durable, du thermalisme et des loisirs.
Donc là, il était question d'une signature des grands sites d'Occitanie. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce que c'est ?
Alors oui, en région Occitanie, nous avons 41 grands sites d'Occitanie. Donc chaque département a des grands sites d'Occitanie. Alors ici, on est sur les gorges du Tarn. C'est pour une mise en valeur des gorges du Tarn via ce label. C'est un label, le grand site d'Occitanie, voilà, qui permet de donner de l'attractivité à un territoire. Pour ici, il y avait une contractualisation depuis 2018 et qui arrive donc à échéance. Et donc, on est là sur une période de renouvellement. Donc, on va repartir sur des avenants. Un grand site d'Occitanie, c'est quoi ? C'est une pépite emblématique sur un territoire. Et donc, dans la région, on en a 41. Mais le grand site, ce n'est pas uniquement géographiquement le site emblématique, c'est tout un territoire. Et donc, on a élargi les territoires au fil des années, parce qu'il est important que le reste du territoire autour du site emblématique puisse récupérer aussi les retombées économiques, mais aussi puisse être accompagné pour qu'on puisse attirer du touriste sur le site emblématique et sur tout le pourtour. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un accompagnement, notamment évidemment via des dispositifs, via des accompagnements financiers, en ingénierie également. Mais c'est aussi, la région a aussi le rôle de créer le lien entre ces 41 grands sites de manière à ce qu'ils puissent échanger entre eux, créer du lien, faire des échanges de pratiques, mettre en valeur des témoignages et gagner en attractivité sur toute notre région Occitanie.
Donc l'histoire, c'est un peu d'avoir une sorte de politique commune en fait, de la vision touristique d'un territoire donné. Et donc il y a des engagements, j'imagine, de la part des communes aussi. Quels sont-ils ?
Alors ça se travaille ensemble, c'est alors des engagements, c'est plutôt des plans d'action en fait sur lesquels les grands sites réfléchissent et qui nous disent, parce que c'est pas la région qui impose des actions, puisque les seuls connaisseurs de la vie d'un territoire, des besoins d'un territoire, sont les gens et les élus qui y vivent. Moi-même, je suis maire d'un village dans le Gers. J'attends pas après la région pour m'apprendre ce qui est bien pour mon village. Mais c'est vraiment un travail en partenariat. Et donc, la région est là pour accompagner justement les acteurs du territoire à réaliser ce qui est bon pour leur territoire.
Ça passe par quel type d'action concrètement ?
Alors là, il y a du développement. Là, on a vu des développements de pistes cyclables, de parcours cyclables. Il y a des rénovations de structures, de création de nouvelles structures. Ça va vraiment sur toutes les activités qui peuvent concerner l'économie touristique.
Depuis, donc, c'est en 2018, hein, c'est bien ça que vous êtes engagé dans cette démarche Grand Site Occitanie. Là, c'est un peu une sorte de bilan aussi que vous avez fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce bilan ?
Pour nous, il est positif, le bilan. J'espère que pour la région, il est positif aussi. Alors, Henri Coudert, je suis président de la communauté de communes de Gorges-Causses-Cévennes et président de l'agence d'attractivité touristique. Le Grand Site Occitanie, ici, est sur 3 communautés de communes. Alors, il y a la communauté de communes de Gorges-Causses-Cévennes qui l'a en son entier. Puis après, on a la communauté de communes Aubrac-Lot-Causses-Tarn qui l'a à 20%. Et mis au Grand Causses, qu'il a à 20%. Voilà, c'est surtout ça. Il faut se dire qu'ici, on a fait pour ce grand site avec une gouvernance. On a fait ce grand site en... Pourquoi la gouvernance ? C'est parce que depuis la loi NOTRe, où il y a eu donc la fusion de comités de communes, on a pu discuter avec... puisqu'on a des comités de communes qui sont plus grandes, on a pu discuter avec nos voisins plus facilement que ce qu'on pouvait faire avant. Donc quand on a fait le Grand Site de France en projet, en même temps est arrivé donc les projets de Grand Site Occitanie. On a dit qu'il fallait qu'on se projette là-dessus. On a été retenu et là-dessus, bien sûr, on dit un grand merci à la région. Mais c'est surtout aussi parce que les hommes du territoire, enfin les hommes et les femmes du territoire, se sont parlé, ont travaillé ensemble et donc ont fait une gouvernance politique et financière pour pouvoir arriver à ce qu'aujourd'hui, on ait un grand site Occitanie qui fonctionne, qui fasse des actions, qui n'ait pas fait que de faire des propositions, mais qui ont fait des actions accompagnées avec la région. Et c'est pour ça qu'on continue maintenant avec des avenants, puisqu'on ne recrée pas un deuxième contrat, on met des avenants au futur contrat pour pouvoir faire des actions plus près du territoire ou qui collent aujourd'hui plus près au niveau des actions qui se font maintenant, puisque ce qu'on a fait, ce qu'on a créé en 2018, 19, 20, tout le monde a passé le Covid, et depuis le Covid, tout se réfléchit peut-être autrement, et donc on a aujourd'hui des actions qu'on n'aurait sûrement pas pensé et qui vont être mis en place par rapport aux avenants qu'on va faire avec la région et qui vont embellir notre territoire.
Est-ce que vous pourriez donner des exemples ?
Un exemple flagrant, c'est sur tout ce qui est, par exemple, mobilité douce. On n'était pas, il y a quelques années, sur de la mobilité douce sur nos territoires. On était plutôt sur de l'itinérance. Mais de l'itinérance randonnée, donc petite itinérance, grande itinérance, on met en place maintenant, on réfléchit sur de la mobilité douce, donc vélo, tout un tas de choses. On a aussi, il y a une action qu'il va falloir qu'on mette en place par rapport à sa mobilité, c'est que le touriste qui vient chez nous a changé. Il arrive chez nous avec sa voiture et il veut poser sa voiture et faire de l'activité sans trop prendre son véhicule. Ça, c'est quelque chose qui est totalement neuf pour nous. Et il faut vraiment qu'on réfléchisse là-dessus pour qu'on puisse accrocher et qu'on puisse donc donner aux gens qui viennent chez nous, bien entendu, satisfaction et surtout qu'ils puissent revenir. Et ça, c'est des actions futures qu'il va falloir qu'on réfléchisse vraiment et pour voir ce qu'on peut faire. Parce que tout le monde sait bien qu'ici, se déplacer sans voiture, c'est quelquefois des fois difficile. Je ne peux dire que je suis heureux que les comités de communes se soient mis sur ce GSO, qu'on ait réussi, comme je vous disais tout à l'heure, notre gouvernance autant politique que financière, parce que ça paraît rien, mais c'est quand même quelque chose d'important. Parce qu'il est vrai qu'il y avait peut-être aussi à des moments quelques discordances et quelques dissonances entre les territoires. Mais on a fait fi du passé et on a dit maintenant si on ne travaille pas ensemble, on est mort.
C'est important parce que quand on parlait, je reviens sur le bilan, un bilan positif, c'est essentiel donc pour tous les territoires parce que il faut rappeler que l'économie touristique est la deuxième économie régionale. C'est 125 000 emplois, hein, une économie touristique qui fonctionne, c'est de la création d'emplois, c'est quasiment 16 milliards de retombées de chiffre d'affaires. Et donc pour les territoires de campagne, comme la Lozère, comme mon département du Gers, ce sont des retombées qui sont importantes parce que créatrices d'emplois. Et donc ce qu'expliquait Monsieur le Président, le fait d'avoir réussi cette gouvernance qui est à la fois importante financièrement, politiquement, c'est un gage de retombées pour l'intégralité du territoire. Et c'est vrai qu'on le disait, le tourisme n'a pas de frontières administratives. Et là, sur ce GSO, on en a la preuve, puisqu'on a aussi le côté Aveyron qui appartient au même périmètre.
Est-ce qu'on mesure justement la hausse peut-être de fréquentation là depuis le début de l'action mise en place ?
La hausse de fréquentation, je crois qu'on on est toujours en hausse de fréquentation. C'est pareil, le Covid, parlons du Covid qui a été. On a eu de la hausse de fréquentation juste après Covid, parce que avec ce rond de 100 km à l'époque, là, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, qui étaient de la région et qui ne nous connaissaient pas. On avait fait une expérience un jour où on était allé sur la place de la Comédie, on avait dit est-ce que vous savez où est Florac ? Florac, je sais pas, non, franchement, je sais pas où c'est. Bon, alors et on est à 1h30 en voiture. Quoi.
Oui.
Donc c'est ça où on s'était dit, il faut absolument qu'on fasse découvrir comme disait Georges Frêche, l'avant-pays. Parce que à force d'être toujours à l'arrière-pays, c'est pas bon. Mais donc, nous on se dit qu'on est l'avant-pays de Montpellier, quoi, quelque part.
Pour rebondir sur ça, les départements de la Lozère et de l'Aveyron font partie des deux départements qui ont été les plus attractifs, post-Covid également. Justement parce que, changement de comportement, et les gens voulaient venir à la campagne, voulaient venir au vert. Donc les territoires ruraux ont été très attractifs, mais vraiment la Lozère et l'Aveyron ont été les deux départements sur la région Occitanie les plus attractifs post-Covid.
Il y a quand même, comme vous le disiez au tout début, un engagement aussi de respecter l'environnement. C'est aussi un enjeu qui se pose beaucoup aujourd'hui.
Ah oui, oui, complètement. Et d'autant que la région, on s'est engagé depuis... on a signé un pacte vert depuis novembre 2020. Et là, aujourd'hui, donc le schéma colle parfaitement à notre pacte vert. Et tous les dispositifs qui découlent du schéma seront des dispositifs qui vont être beaucoup plus attentifs sur les projets qui seront dans le respect de l'environnement, dans le respect des hommes et des femmes, de la biodiversité, aussi de tout ce qui est ressources humaines, des salariés, ça c'est important aussi, ça fait partie de ce pacte vert qui est à la fois la transition écologique, mais aussi sociale et démographique.
Et pour une personne qui vient ici en vacances, un touriste, quand il voit ces plaques du coup grand site d'Occitanie, c'est gage de quoi ?
C'est un label, donc c'est la preuve que ce territoire labellisé est un territoire qualitatif. Et donc c'est une, on va dire, la cerise sur le gâteau pour donner un petit peu plus de visibilité et en tout cas marquer que ce territoire est un territoire labellisé en termes de qualité touristique.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. À mercredi, ciao.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Joyeuse, et c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut? Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne.